Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, et au menu aujourd'hui, l'info du jour à un député breton qui participe à l'initiative de deux parlementaires avant un projet de loi sur le congé menstruel, interview avec Raphaël Tual d'Enquête d'Actu pour un sujet en deux volets sur les dérives de la fraternité Saint-Pie X, de la musique dont une nouveauté, un reportage au Bois Perrin à Rennes qui accueille l'artiste Céline Naon en résidence autour de l'écriture comme performance, et puis recommandations et une proposition dans le cadre du mois du galop, bienvenue dans l'arène. Comme chaque jour, on débute l'émission d'information locale avec l'info du jour, une que j'ai choisie parmi d'autres dans ce qui se raconte dans la presse locale. Demain, mercredi 27 mars, l'Assemblée nationale va étudier une proposition de loi qui vise à créer un congé menstruel. Sébastien Peytavi, qui est député écologiste et l'auteur du texte, propose ainsi de créer un arrêt de 13 jours par an pour les femmes salariées, on le précise, arrêt qui serait délivré par les médecins, médecins du travail et sages-femmes dans le cas de femmes qui souffrent de règles incapacitantes. C'est ce même Sébastien Peytavi qui a fait tester un simulateur de règles à plusieurs de ses collègues. Ils sont issus de différents groupes, la France Insoumise, les Républicains, Renaissance, le groupe Liot et le Modem. Alors le simulateur de règles, c'est un appareil avec des petites électrodes qu'on pose sur le ventre, une façon de sensibiliser ces élus masculins à un sujet qu'ils ne vivent pas dans leur corps. Et tout ça, c'est un défi en lisant l'exposé des motifs de la loi qui va être débattu mercredi. La vidéo, elle est à retrouver en ligne. Je vous spoil rapidement, les participants ne passent pas un très bon moment. Parmi ces parlementaires, il y avait Erwan Balanan, député Modem du Finistère. Ce que je sais et ce que j'ai vu, c'est la difficulté de se concentrer quand il y a une douleur qui monte, témoigne ainsi l'élu sur France 3 Bretagne. Et de poursuivre, je suis conscient que ce n'était pas la réalité, je n'avais que les douleurs au ventre, pas les maux de tête ni les problèmes inflammatoires. L'expérience, elle semble donc plutôt positive, puisque le député se dit favorable à ce que ce projet de loi soit présenté à l'Assemblée, même s'il s'interroge sur son vote, avec, je cite, « une peur du retour de bâton des phallocrates » qui pourrait se servir en gros de cette loi pour justifier l'inégalité entre les femmes et les hommes. En tout cas, mercredi 27 mars, la proposition de loi elle va être débattue en commission avant un passage devant l'Assemblée nationale prévu jeudi 4 avril. Allez, après cette info du jour, on continue avec l'interview du jour. Raphaël Tual, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes rédacteur en chef adjoint d'Enquête d'Actu, un projet qui fait partie du média actu.fr, un média d'information web mais aussi papier, puisqu'on a notamment près de Rennes des hebdomadaires du groupe, je pense au Journal de Vitré, au Pays Malouin ou encore à la Chronique Républicaine du côté de Fougères. Et au sein de ce groupe, Raphaël, vous avez lancé donc un nouveau projet en 2021, ça s'appelle Enquête d'Actu. La promesse au lancement, c'était à peu près une enquête par mois en s'appuyant sur les 400 journalistes du groupe qui sont répartis sur le territoire. Est-ce que ça fonctionne 3 ans plus tard là ?
Ça fonctionne toujours. On est toujours là avec en plus une accélération puisque j'ai un collègue, Valentin Lebossec, qui a rejoint l'équipe. Donc on est maintenant deux dans cette petite cellule d'enquête, mais donc qui vit au sein, vous l'avez dit, d'un grand groupe. Hein, parce que c'est le groupe Publihebdo qui appartient lui-même au groupe SIPA Ouest-France. Siège à Rennes, et donc on collabore avec les 400 journalistes du groupe. On vit en synergie comme ça.
Et est-ce que c'est, comment dire, tenable de travailler des sujets sur le temps long ? On sait que c'est quand même un défi.
Mais c'est plus que tenable parce que c'est un rêve pour tous les journalistes que de pouvoir travailler sur ce temps long. C'est un luxe qu'on a pris il y a maintenant 3 ans. C'est nécessaire en fait pour pouvoir avoir la confiance des sources, aller chercher de la donnée qui n'est pas accessible en 2-3 clics, qui n'est pas accessible directement, quelque chose qui n'est pas forcément public. Donc ça nécessite du temps. Et puis il y a aussi un élément qui est important quand on fait de l'enquête, c'est des fois d'abandonner une enquête. Et ça, il n'y a que le temps aussi qui peut le permettre, c'est-à-dire qu'on explore des pistes. Et puis il y a certaines portes qu'il faut aller fermer. et se rendre compte qu'il n'y a pas, de projet éditorial derrière.
En jetant un coup d'œil donc à la page d'accueil d'enquête d'actu qu'on retrouve sur le site actu.fr, on retrouve par exemple une enquête récemment sur la culture du Polonia, qui est un arbre vendu comme un puits de carbone, et donc vous explorez un peu cette nouvelle économie de la culture du Polonia. Une autre enquête sur pêche de loisirs et souffrance animale, ça c'est pour les sujets les plus récents. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous sont proposés qui attirent plus votre attention que d'autres?
Ce qu'on essaye de faire à Enquête d'Actu, c'est de ne pas être auto-centré, donc de ne pas n'avoir pour sujet que ce qui nous intéresse, parce qu'on est un média généraliste et donc on doit s'intéresser à tout et livrer de l'information aussi, vous l'avez rappelé, pour nos journaux, parce qu'on a 80 journaux en France qui sont aussi accessibles en version papier. Donc on n'a pas de thème prédéfini. Et ce qui nous intéresse, c'est d'abord le projet éditorial, savoir s'il y a quelque chose à mettre en lumière ou à révéler. Dans le cadre du Polonia, c'était de comprendre est-ce que il y a très peu d'entreprises en France qui se sont lancées dans ce business-là il y a moins de 5 ans. Et c'est de savoir si les promesses faites aux agriculteurs correspondaient à la réalité. Donc, on a voulu creuser ça. Voilà, c'est l'idée de vouloir mettre en lumière des choses qui sont pas forcément connues. Et donc, quand on est alerté dans le cadre du Polonia comme ça, ce sujet-là, ça a été une alerte interne d'une journaliste, d'une collègue qui est basée à Saint-Malo et qui nous a parlé de ce business autour de cet arbre magique, présenté comme magique. Et avec Valentin, qui a travaillé le sujet, on ne connaissait pas cet arbre, on ne connaissait pas ce business, et donc on a décidé de se lancer dedans. D'essayer de comprendre. Et donc là aussi, ça a été le temps long qui a permis d'abord de comprendre et ensuite de dégager un angle, essayer de voir s'il y avait réellement un potentiel économique à travers cet arbre.
Donc cette enquête, elle est à retrouver en ligne. On va s'arrêter sur un autre sujet consacré à la fraternité Saint-Pie-X qui concerne en partie la région Bretagne. Cette enquête, elle s'inscrit dans un contexte qui est pluriel. En la lisant, j'ai évidemment pensé au recul du christianisme en France, à l'Église confrontée à des affaires de violences sexuelles et puis aussi à une frange réactionnaire de la population qui gagne en visibilité. C'est tout ce contexte-là quand même qui a nourri ce travail d'enquête, Raphaël ?
Oui, c'est de se dire qu'il y a, vraiment une prégnance de la religion dans notre société qui est très fortement marquée en Bretagne. Et là aussi, c'est une alerte d'une journaliste du groupe qui nous parle, parce qu'elle avait commencé à travailler sur ce sujet-là lorsqu'elle était étudiante à Lannion, à l'IPT de Lannion dans les Côtes d'Armor. Et une fois journaliste et une fois qu'elle a intégré le groupe, elle a voulu poursuivre pour comprendre d'où venait la vitalité de ce groupe religieux.
Donc ça, c'était le point de départ.
C'est le point de départ. Pareil, je ne connaissais pas ce groupe, ce mouvement-là. Donc il a fallu un gros moment d'acculturation et ensuite d'immersion, d'essayer de comprendre, sans trop juger, j'espère, dans l'enquête, mais c'est de mettre en lumière la vitalité du mouvement, pourquoi il est si vivace, et puis dans la deuxième partie, c'était les dérives sectaires qu'il pouvait y avoir. Ça, c'est le deuxième article.
La Fraternité Saint-Pie-X, pour les auditeurs qui n'en ont jamais entendu parler, c'est un mouvement qui est né en 1970, qui compte 35 000 fidèles et 200 prêtres qui s'inscrivent dans un catholicisme intégriste. Et alors les communautés les plus importantes, elles sont implantées à Nantes, donc en Loire-Atlantique, et à Lanvalet, dans les Côtes d'Armor. Est-ce que c'est bien résumé ? Il faut peut-être dire un mot un peu sur la couleur prosélyte de ce mouvement-là, qui cherche vraiment à attirer de nouveaux fidèles.
Oui, il y a la recherche de nouveaux fidèles, ils y arrivent. Et puis, c'est la volonté, ce sont des traditionnalistes qu'on peut aussi décrire comme intégristes. Ils n'aiment pas ce terme-là, eux se définissent comme traditionnalistes parce qu'ils respectent la messe telle qu'elle était et les traditions telles qu'ils étaient avant le Concile Vatican II, donc avant 65.
On découvre sur les deux épisodes que ce mouvement est fâché avec le Vatican, qu'il juge trop progressiste, et donc on revient à la messe en latin. Il y a une forte opposition au dialogue interreligieux, mais aussi à d'autres pratiques, la communion des divorcés remariés, la bénédiction des couples homosexuels. Tout ça sont en fort désaccord sur ces sujets-là. Il faut ajouter que la Fraternité Saint-Pie-X, elle comprend un réseau de 59 écoles qui sont hors contrôle contrat, donc ça veut dire pas de financement de l'État, ainsi qu'un établissement d'études supérieures. Pour la Bretagne, j'en ai repéré quelques-unes à Brest, Vannes et Saint-Père. C'est aussi ce sujet-là que vous explorez dans l'enquête, la question des écoles.
Oui, parce que c'est les familles qui veulent que leurs enfants soient éduqués dans le respect de la foi, d'une certaine forme de discipline. Et donc, on démontre, notamment par des rapports d'inspection de l'éducation nationale, qu'il y a, là aussi, il y a des dérives dans l'éducation, dans l'instruction des enfants, qui sont très problématiques, parce qu'il y a la négation de la Shoah, parce que c'est un mouvement aussi qui est très proche de l'extrême droite. Donc c'est ce qu'on a voulu démontrer dans cette enquête-là, sans jeter l'opprobre, mais en voulant juste mettre de la lumière. Voilà. Mmh. Donc évidemment, les gens ne sont pas forcément heureux qu'on le fasse, et en même temps, on a des personnes qui ont été très contents qu'on puisse décrire ce mouvement et montrer les dérives possibles.
Cette enquête, elle est quand même très instructive. On y découvre que dans ces écoles, il n'y a pas de cours de natation ni d'éducation sexuelle, pourtant obligatoire dans l'enseignement aujourd'hui. Et puis, vous l'avez évoqué, des cours d'histoire où l'histoire est manipulée, on va le dire comme ça, avec des relents racistes. L'enquête que vous avez publiée, Raphaël Tual, elle est, vous l'avez dit, découpée en deux volets. Comment ces catholiques traditionnalistes tentent d'évangéliser la France ? Ça, c'est le premier épisode qui a été publié le 5 mars, et le second, publié le 19 mars, donne la parole à trois femmes qui décrivent de graves dérives sectaires. Valentine, Thérèse et Gwendoline, alors ce sont des prénoms d'emprunt, elles ont grandi dans ce mouvement et ont fini par couper les ponts avec leurs proches. Ils sont précieux, ces témoignages.
Oui, et il y en a d'autres qui sont arrivés après publication et qui vont dans le même sens. Ce qui veut dire qu'il faut que les fidèles catholiques, soit intégristes, soit modernistes, mais entendent ces choses-là, parce que beaucoup le nient, et alors que effectivement ce sont des témoignages, donc c'est un point de vue totalement subjectif, mais c'est du vécu là de ces trois femmes-là, qui sont de trois régions différentes, qui ne se connaissaient pas avant, et donc il y a un intérêt très fort de les entendre dans le cadre d'une enquête.
Une des anecdotes assez fortes qui est racontée, c'est, alors je ne sais plus laquelle des trois, qui raconte qu'on leur rappelle que le mot « monde » est un anagramme du mot « démon », une façon de leur dire que le monde extérieur est dangereux pour eux et pour elles. Et leurs témoignages décrivent alors un contrôle très fort, que ce soit sur leur lecture, sur leur hobby, sur leur mode de vie, mais qui vont jusqu'à des pratiques qualifiées de sectaires dans l'article.
Oui, pour les plus rigoristes, hein, évidemment, pour les familles les plus rigoristes, c'est-à-dire que le prêtre dicte les règles de conduite jusque dans l'intimité, hein, jusque dans les actes sexuels. Le père, c'est la figure paternelle, c'est lui qui représente Dieu dans la famille, donc on lui doit obéissance, autorité. La femme ne doit pas travailler, elle doit être la bonne compagne capable de tenir une conversation, mais qui doit pas trop déranger. Et les enfants sont extrêmement contrôlés. Une Valentine, par exemple, nous dit qu'elle n'a pas vu de salle de cinéma avant ses 18 ans. Elle n'est jamais allée au cinéma. Ce n'est pas le cas pour toutes. Mais ça, c'est dans le cas les plus extrêmes. Et c'est-à-dire que ce système, ce mouvement-là, met en place des choses qui permettent ces dérives. Donc c'est ce qui est dénoncé par notamment l'association Lunatfi, qui est une association qui lutte contre les dérives sectaires pour venir en protection des familles, parce que c'est extrêmement compliqué quand on est né comme ces trois femmes-là, quand on est né dans ce mouvement-là, de pouvoir en sortir et de pouvoir comprendre qu'effectivement, il y a un autre monde, c'est-à-dire le nôtre, et qu'il n'est pas si méchant. Parce qu'effectivement, ils sont construits comme dans une forteresse, éduqués par des religieuses, et n'ont pas le droit de voir d'autres personnes que ceux de leur mouvement. Donc c'est en ça que ce sont des dérives sectaires, parce que c'est un enfermement. Et la principale caractéristique de la secte, ou de la dérive sectaire, c'est l'enfermement.
Et ça va assez loin, puisque c'est toujours Valentine qui raconte une séquestration alors qu'elle a 18 ans, par ses parents, opposée à la relation qu'elle a avec son petit ami à l'époque, donc séquestration, et puis qui sera suivie d'un envoi dans un couvent toujours proche, oui, de cette fraternité Saint-Pie-X. Et juste pour le sigle que vous avez cité, c'était l'Union nationale des associations de défense des familles et individus victimes de sectes. Est-ce que l'existence au grand jour de tel quel mouvement fait réagir suite à la publication de l'enquête. On a quand même des responsables qui assument une détestation de la République, les mots sont formulés de cette façon dans l'article, et puis une parole qui se libère à travers des témoignages sur un formatage qui est quand même très violent au sein de ce mouvement.
Oui, alors c'est les réactions, elles sont pas d'ordre politique. Vous voyez, c'est-à-dire ça existe. Ce qui semble fou, c'est que ça existe encore, quoi. C'est qu'il peut y avoir une inquiétude autour de ça. J'ai l'impression que le monde politique instrumentalise beaucoup l'islam et la communauté musulmane dans ce genre de cas, parce qu'il y a aussi de graves dérives dans le monde islamique. Et on élude l'aspect catholique, peut-être parce que c'est notre histoire, c'est notre tradition. On l'a vu aussi avec la polémique autour de l'école Stan, qui concernait les enfants de la ministre
Oudéa Castéra,
de l'éducation nationale, voilà, Amélie Oudéa Castéra, qui a eu ses enfants dans une école privée, alors sous contrat, mais une école privée sous contrat qui ne respectait pas non plus toutes les prérogatives et la loi. Et les écoles hors contrat doivent aussi normalement respecter des valeurs communes et notamment enseigner le respect de la République. Ça, c'est une base dans les textes de loi. Et là, on le démontre très clairement. Certaines écoles, des amis de la fraternité, qui sont dirigées par des religieuses, ne respectent pas la loi en mettant une telle haine de la République.
Je vous représente, Raphaël Tuel, vous êtes rédacteur en chef adjoint d'Enquête d'Actu, un des projets à retrouver en ligne sur actu.fr, qui est un média d'information web, mais aussi papier. Et donc cette enquête qu'on a évoquée sur la fraternité Saint-Pie X en deux volets, elle est à retrouver en accès libre sur le site actu.fr. Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à vous.
Je déambule tard dans la vie. J'ai mis mon plus joli visage. Je suis agile et volubile. Mais c'est grâce à mon maquillage. Qui sait qui je suis dans le fond? C'est mon secret le mieux gardé. J'ai beau m'afficher ma vision, reste le caché, mon cœur brisé.
Je suis toi et tu es moi, Paloma. Tu m'aimeras.
passait sur le radio des fiacres. Avec ma famille adoptive, il t'a la main fils de lever. Jusqu'au bout, j'ai chanté cette hymne. Une ritournelle pour réchauffer le cœur de toutes les orphelines, main dans la main, les sœurs et sœurs.
L-O-M-A, un titre de Rebecca Warrior, Rome et Paloma. Évidemment, c'était une nouveauté musicale présélectionnée par Yann Barbotin, notre programmateur ici à la radio, et que vous retrouverez sur la compilation Rainbow Warriors volume 1, une première compilation pour le label Wario Records de la fantastique Rebecca Warrior, passée entre autres par Sexy Sushi ou encore Mansfield Tia. Cette compile, elle est sortie début mars, et sur ce morceau, vous avez entendu la voix de Paloma, drag queen célèbre pour avoir remporté la première édition de Drag Race France. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B, une émission qui a quitté les réseaux sociaux, mais vous pouvez continuer à suivre le programme grâce au courrier de La Reine. C'est une newsletter que j'envoie aux abonnés chaque vendredi, un petit résumé de tout ce qui s'est raconté dans cette émission au fil de la semaine. Pour s'abonner, rien de plus simple, il suffit d'envoyer un email à l'adresse lucie@canalb.fr. Allez, on continue cette émission avec un reportage. Peinture morale à corps perdu, c'est le titre du projet de recherche-création de Céline Ahon, une artiste performatrice invitée en résidence sur le site du Bois Perrin au sein d'EUR CAPS. Beaucoup de lettres pour École Universitaire de Recherche et CAPS pour Creative Approach to Public Space. Autour de cette école, on trouve les associations Cœur Résistant, la Croix-Rouge, mais aussi une unité pédopsychiatrique. Céline Ahon a rencontré ses différents publics pendant un an autour du geste enfantin de dessiner, vous savez, votre propre main avec un crayon, là, en faisant le tour de ses doigts et en associant à chacun des doigts un mot. Des paroles mises en lumière dans la cantine du Bois Perrin du 26 mars au 17 avril. Et le vernissage, c'est jeudi 4 avril à partir de 18h30.
Un arbre qui s'appelle Rue, découvert un dimanche, aidé par la couleur, est devenu blanc.
La famille trouve solution pour école. Liberté pour tout le monde, respect pour tout le monde.
Quelle belle évasion du partage et du don, qu'il est poétique de créer des liens avec l'autre avec presque rien.
Drôle mélopée du franglais dans tous les sens, senses, et à fond la forme en ingénieux de l'eau.
Ça enregistre, ouais. Bon, alors, moi, je m'appelle Céline Ahon, je suis originaire de Clermont-Ferrand, mais j'ai fait mes études à Strasbourg, et depuis une vingtaine d'années, je suis artiste. Et je vis de ce métier, ce qui n'est pas si simple, mais j'y arrive. Et donc, je suis là par petites séquences au Bois Perrin, dans le cadre de cette convention d'occupation, de ce qui était avant était l'hôpital de pédopsychiatrie, et je suis l'artiste en résidence de ce dispositif EUR CAPS, qui est donc l'école universitaire de recherche, et CAPS pour Creative Approach Public Space. Donc, cette EUR, c'est l'une des, de la trentaine qui existe en France. C'est un dispositif très privilégié, je trouve, de l'action recherche, recherche-création. Et donc, il y en a sur la trentaine qui existent, deux dédiés à l'art. Donc, c'est vraiment, ben oui, un honneur pour moi d'être l'artiste en résidence cette année de l'EUR CAPS, car mon travail s'ancre dans l'espace public et par le médium dit de la performance. La performance n'a rien à voir avec ces fameux Jeux Olympiques qui se rapprochent. La performance, c'est dans les arts plastiques, tout ce qui relève du vivant, sans être de la danse ou du théâtre. Et donc c'est vraiment un médium qui a mi-chemin entre ce qu'il y aurait de vivant, mais qui n'est pas régi et cadré par tout le savoir-faire du spectacle vivant. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas de fiches techniques, je n'ai pas de quatrième mur, mais je m'adresse. Et je m'adresse à des spectateurs qui sont là et qui veulent bien écouter ce que j'ai à raconter et surtout ce que je raconte avec les autres. Alors moi, on peut dire que les projets qui m'ont marqué parce qu'ils m'ont permis de survivre en tant qu'artiste, c'est d'avoir réussi à faire accepter l'idée de performance, c'est-à-dire un corps en mouvement qui raconte, qui fait du lien, comment le médium de la rencontre fait œuvre. Et vraiment, les projets qui m'ont structuré, c'est de répondre à des commandes publiques. Donc vraiment là, en dialogue avec tout un champ qui n'est pas forcément celui de l'entre-soi de l'art. C'est-à-dire que je viens des beaux-arts, d'une école de beaux-arts, je me structure sur un savoir-faire d'artiste plasticienne, mais ce savoir-faire, je le mets en écho avec des institutions, des collectivités, des métropoles, des, voilà. Et c'est donc le cadre, ce qu'on appelle le 1% artistique pour 99% d'art. Et le 1% artistique, c'est la loi Janzé, pensée dès les années 30, mais qui est passée au journal officiel en 1951, qui dit que quand un bâtiment public est construit, 1% des travaux sert à faire une œuvre. Et depuis 2006, j'ai pu en réaliser deux. Et moi, j'ai dit, je propose que l'œuvre, elle ne soit pas forcément dure. Et encore plus dure que dure, c'est pas mou, c'est vivant. Donc une œuvre vivante, c'est de l'œuvre qui fait rencontre. Donc j'ai fait comme ça deux 1% artistiques dans des collèges. Et ça a donné lieu à des films et des livres. Il y en a un, c'est « J'aimerais pouvoir apprendre en bougeant ». Donc ça parle de qu'est-ce qu'une, c'est qu'une expérience, comment un humain, dans un cadre donné, fait expérience, et comment l'expérience crée du sens. Et ça, c'était à Mer, dans le Loir-et-Cher, voilà. Et puis l'autre, ça s'appelait « Jouer à faire semblant pour de vrai ». Donc là, c'était de la parole devant des murs verts, d'incrustation, comment de la parole faisait de l'image mentale. Ça, c'était à Bondy, dans le 93. Et c'est vraiment ces projets qui m'ont amené jusqu'à Rennes et ouvrir la réflexion sur le rapport au corps, à l'écriture, à la rencontre, dans les enjeux proposés par l'EUR CAPS.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas.
On décrit où on se trouve, donc dans un lieu avec beaucoup d'écho, je pense qu'on l'entend, où on se trouve et puis quand vous y êtes arrivé pour cette résidence.
Donc moi, c'était, je crois que c'était autour du 8 mars, donc il y a un an, j'avais envoyé mon dossier, répondu à l'appel à candidature, je suis venue passer un oral. Voilà, on était plusieurs finalistes, ça c'est quand même, voilà, toujours comme ça. Et à l'oral, voilà, donc je suis venue expliquer que moi j'aimais travailler avec le réel, parce que les œuvres n'ont pas à être sacralisées, muséifiées. Enfin, l'art, c'est du concret, c'est du réel. Donc, c'est du rapport au terrain, au territoire, au corps et aux rencontres. Et donc, on a établi qu'il y avait des rencontres à faire de voisinage. Ça, c'était il y a un an. Et vous le dites très bien, là, maintenant, on est dans un endroit où ça fait écho. Et ça, je dis souvent aux étudiants que je suis amenée à rencontrer, on est là pour faire écho, on n'est pas là pour la déco. C'est-à-dire qu'il faut que les œuvres, hop, 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 ça fait de l'écho, créent des espaces qui s'ouvrent. c'est-à-dire comment les choses vont résonner. Comment, à partir d'un endroit, on jette un caillou et ça fait de l'écho. C'est-à-dire que nous sommes là, dans l'ancien bâtiment qui était la cantine des plats préparés pour les services hospitaliers, qui sont dans la friche du Bois Perrin, qui est dans ce quartier de Rennes, Rennes qui est une ville, dans un pays, dans une nanana, etc., etc., etc. Et c'est comment ce qui va se passer là pendant 4 jours va structurer la dite exposition de fin de résidence, parce qu'à un moment, on se compagnonne, mais à un moment, il faut que les vies reprennent leur élan. Donc comment on clôt ce qui s'est passé pendant un an en déposant ici des gestes. Donc il y a plusieurs gestes qui vont se rejouer, mais qui ont été expérimentés toute l'année avec les voisins et voisines.
Une cantine qui est un peu dans son jus, donc très haute de plafond, avec de la mosaïque sur les murs et des espaces qui sont très grands autour de nous avec quelques tables et quelques chaises. Il s'est passé quoi en fait en un an ? Des ateliers d'écriture, particulièrement donc avec Cœur Résistant, qui est juste à côté, qui organise des distributions alimentaires, la Croix-Rouge et aussi service de pédopsychiatrie voisin.
C'est ça, c'est ça. Et aussi, je peux rajouter à ces trois interlocutrices que vous citez, il y a eu un temps fort de l'EURCAPS qui s'est appelé la Summer School au printemps dernier, avec qui j'ai partagé toute ma réflexion actuelle sur le rapport à l'espace public et performatif. Donc c'était très simple, je le décris pragmatiquement. Je suis arrivée avec tous ces enjeux de qu'est-ce qui fait écriture quand on ne parle pas la langue maternelle d'un pays où on est, qu'est-ce qui fait écriture quand le rapport au monde entraîne dans des zones d'un droit à la différence maximum, quoi, qui est celui du soin psychiatrique, et qu'est-ce qui fait écriture aussi quand on recherche, quoi, quand on cherche. Et moi, ce que j'aime à jouer avec ce rapport à l'écriture, c'est aussi qu'est-ce qui fait langue et langage. Donc pour parler de langue et de langage dans des rencontres où parfois on ne parle pas du tout la même langue, j'ai proposé d'arriver avec des papiers de couleur, des feutres de couleur, et de demander quel est votre mot préféré. Donc des fois on a fait en anglais, des fois on s'est débrouillé, on a utilisé des traducteurs de téléphone, et je dis quels sont même vos 5 mots préférés. Il y a 5 mots préférés comme les 5 doigts de la main. Et j'ai pris plaisir à rejouer ce geste de l'enfance, parce que pour moi, résister dans son corps quand on est dans des environnements aussi durs, contraints, qui sont ceux de notre époque, c'est une joie qui est originelle et qui est celle de l'enfance. Sans tomber dans l'universalisme, essentialisme, mais comment on reste joyeux dans notre corps et résistant. Donc, on pose sa main sur une feuille, on fait le tour des doigts, de la main, du poignet, et ensuite on dépose ses 5 mots préférés sur la feuille. Et puis ensuite on les dépose sur la main, et il y a comme ça une sorte de petit, oui je dirais, rituel d'écriture qui permet d'établir l'espace entre de la rencontre. C'est-à-dire s'il y a un espace entre une artiste et des gens, entre plusieurs personnes, c'est parce qu'il y a possibilité d'un espace entre deux mots, entre deux pays, entre deux espaces, et c'est cet espace entre qui est celui, pour moi, de la liberté et de l'art. C'est-à-dire qu'on ouvre des perspectives, et avec ces 5 mots, on les dépose sur une feuille, et des phrases apparaissent dans l'espace entre les mots. Et il y a eu comme ça une cinquantaine de, on pourrait appeler ça poèmes, si vous voulez, mais en fait, pour moi, c'est des performances.
Est-ce qu'il y a des mots qui vous sont restés en tête, là, parmi tous ces mots qui ont été choisis par les participants ?
Oui, oui, oui. Alors, il y a beaucoup de mots de famille, espoir, amour, amitié. Il y a beaucoup aussi de désirs plus pragmatiques, hein, de argent, métier. Mais il y a aussi beaucoup, oui, liberté, dignité. Et puis, il y a des moments d'écriture qui ont surgi. On va les projeter, on va les afficher. Ou des fois, comment on dépasse aussi la colère. Il y a le mot colère qui est aussi revenu, et de comment l'imaginaire aussi. Et l'art, c'est l'un des derniers lieux de liberté qui est indestructible. Enfin, on le sait bien, on le voit bien. C'est au-delà des notions de subversion, d'émancipation. Enfin, c'est vraiment comment l'art, en dépit de tout ce qui nous entoure, quoi, proche et lointain, hein, on est, comment l'art, c'est ce lieu de garder du sens et l'exigence de que chaque vie compte. Voilà. Et même si des fois on veut nous faire croire l'inverse, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup réfléchir aussi dans ce qui est un ancien hôpital, parce que voilà, moi j'avais commencé des études de médecine et puis heureusement ça n'a pas marché, donc je trouve que la médecine croit qu'elle va sauver la vie, elle y arrive un peu, au mieux qu'elle peut, mais l'art, je pense que c'est ce qui va sauver la vie. Enfin, c'est un peu romantique, mais bah, moi c'est ce que je me suis donné comme objectif professionnel.
Si la cuisine vient du cœur, la musique vient de l'estomac, et si j'aime autant les tripes, c'est que ces tripes sont à moi. Pour preuve de mon ardeur, j'écrirai au stylo d'orgeat sur la nappe à carreaux. Je ne mâche pas mes mots.
Et alors ensuite, avec l'autorisation des gens, on a enregistré très furtivement avec les téléphones, hein, c'était pas de la haute technologie. Et ensuite, on repartage la matière qui a été produite. Donc, on en est là. Donc là, pour faire ce travail de partage, j'ai fait appel à un complice qui est le CDN, le Centre Dramophonique National, et qui s'interroge avec toutes les formes de partage et de médiation possible par cet outil qui est en train de disparaître, qui s'appelle le téléphone. Voilà, ça c'est une réaction qui a eu lieu suite à ce que nous avons tous vécu du Covid. Et ce Centre Dramophonique National m'a permis de mettre en place une ligne téléphonique qui est le 04 44 05 01 84. Et alors, ce numéro, c'est là où j'ai vu aussi la limite, parce que faire un numéro et se retrouver en ligne dans appuyer touche 1, appuyer touche 2, qui est quand même l'enfer que vivent nos corps de confrontation à des plateformes, à des applications, à des dièses, à des étoiles, à des vous avez 30 minutes d'attente, n'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je suis ravie aussi qu'il y ait la possibilité d'une résidence qui va permettre d'accueillir des corps. Donc à savoir qu'il y aura du café. Voilà, donc si les auditrices de Canal B ont envie d'un petit café, eh ben, il y a le montage d'expo qui se lance depuis là, ce mardi matin.
Jusqu'à ?
Donc bah, on fait à fond jusqu'à vendredi 29, 18h. Les enfants qui sont dans les nouveaux locaux de l'hôpital qui est au Bois-Perrin vont venir vendredi après-midi. Le professeur de français Daniel de la Croix-Rouge vient jeudi matin avec son cours pour nous re-rencontrer. On envoiera chercher aussi les gens qui font la queue de cœur résistant. Et il y aura aussi à savoir les Performettes, qui sont un groupe de performeurs qui portés comme ça par l'enseignant Francis Reynaud de Rennes 2, vont venir partager aussi tous ces gestes, s'en emparer. Et voilà, il y aura comme ça pendant quelques jours un gonflage de complicité pour vraiment faire un gros écho le 4 avril à 18h, où là il y a la fête dite de vernissage.
Pour l'instant, les murs sont nus. Est-ce qu'on peut donner des éléments aux auditeurs sur ce à quoi va ressembler cet espace le 4 avril ?
Alors, ça va ressembler à un outil de travail. Là, très doucement, il y a quelqu'un, Roland, qui vient d'apporter des tasseaux. Donc, on a lancé au mieux qu'on pouvait des commandes, du matériel. Et donc, comment on va habiller cet espace tout nu, mais qui a quand même, comme vous avez dit, dans son jus, qu'il y a des traces de l'expo de l'année dernière. Et comment je viens aussi en relais de ce qui a été fait et comment une histoire se sédimente. Voilà, c'est ça qui est important. Est-ce que donner la parole, c'est vraiment l'offrir ? Eh ben, je ne suis pas si certaine, quoi. Et c'est comment aussi prendre une parole. Moi, c'est quelque chose que j'ai arraché depuis 20 ans et qui est un travail quotidien. Bah, la preuve, ma voix se coupe. Et donner la parole, c'est pas forcément se couper la voix pour la partager, mais donner la parole, ça s'expérimente. Mais pour que des surprises de l'art existent, il faut qu'il y ait du cadre. Depuis la nuit des temps, depuis la grotte de Lascaux, c'est un cadre dans lequel il y a des mains qui sont restées projetées. Et ben, comment les mains qu'on aura récoltées, recueillies avec ces mots, elles vont pouvoir aussi s'incarner. Et sans qu'il y ait d'utilisation, voilà, comment ça vient se réhabiter dans de l'expérience et comment l'expérience ne s'arrête jamais. Comment l'art n'est pas un autoritarisme d'artiste qui a les codes et qui dit on va faire comme ça.
Mélocotton et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotte-nous, elle est maman. J'en sais rien, viens de moi la main. Pour aller où, j'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien. Mémé, elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman, pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotton, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main.
Colette Mani avec le titre Mélocoton. C'était le choix musical de Céline Aon qu'on vient d'entendre en reportage, un titre de 1963. Alors succès au Hit Parade, et c'est sans doute l'un des tubes de Colette Mani, autrice, compositrice et chanteuse connue pour ses morceaux engagés. Vous êtes toujours dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Un mot tient sur ce répondeur téléphonique qu'on met en place à l'occasion des 40 ans de Canal B. On vous invite à nous envoyer des messages vocaux pour raconter vos souvenirs liés à la radio Canal B. Et pour participer, rien de plus simple, vous ajoutez le 07 60 24 95 77 dans vos contacts WhatsApp. Et vous pouvez ensuite vous enregistrer en gardant votre pouce sur le micro. Vous vous présentez en quelques mots, vous racontez votre souvenir marquant, qu'il s'agisse d'un groupe découvert sur nos ondes, d'une participation à une émission, d'un moment de radio inoubliable ou encore d'une rencontre déterminante. Et les messages vocaux, c'est magique, vous pouvez même nous faire écouter des ambiances autour de vous. Pourquoi pas de la musique dans votre salon, un concert dans un bar ou encore le son de votre cafetière. Bref, soyez créatifs. Ces messages vocaux, ils seront ensuite diffusés lors d'un événement encore tenu secret pour fêter l'anniversaire de Canal B. Ah oui, et si vous n'êtes pas sur WhatsApp, ne paniquez pas, vous pouvez vous enregistrer avec votre dictaphone et nous faire parvenir ces fichiers à l'adresse lucie@canalb.fr. Avant de se quitter, c'est l'heure de la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois, en fin d'émission, des conseils modestes, d'événements à vivre près de chez vous, des idées de lecture, de podcasts à écouter, documentaires à voir, d'associations à suivre aussi. Aujourd'hui, on annonce une proposition dans le cadre du Mois du Galop édition 2024. Une 7e édition pour cet événement qui est soutenu par la région Bretagne. Et jusqu'au 31 mars, ce sont environ 60 animations qui sont proposées. Expositions, conférences, ateliers de langue galaise, concerts, visites. Tout le programme est à retrouver en ligne sur bretagne.bzh. On s'arrête sur un atelier découverte qui est organisé demain, mercredi 27 mars, à la Maison des Cultures du Monde. On est à Vitré, à 40 km à l'est de Rennes. Et de 14h30 à 16h, un animateur de la Grange à Goule, la Maison du Patrimoine Oral en Haute-Bretagne, emmènera les 6-12 ans à la découverte de chants traditionnels de Haute-Bretagne. Le tarif, c'est 4 € et les réservations, ça se passe auprès de la Maison des Cultures du Monde. Cet atelier-là, il ne sort pas de nulle part. Il est en fait proposé dans le prolongement d'une exposition, et voilà le bout, c'est son titre, c'est à voir jusqu'au 30 août, un travail qui a été conçu par la Grange à Goule avec deux autres associations, Dastoum qui fait plutôt dans la collecte de paroles et de chants en Haute-Bretagne, et puis la Bouèze, connue pour ses cours de musique et puis ses événements festifs. Ensemble, ils ont donc construit cette exposition qui raconte les musiques traditionnelles de Haute-Bretagne à travers des histoires, des photographies, des figures locales et des extraits sonores. Voilà pour la recommandation du jour. Ça donne envie d'aller faire un tour. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine. Le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.